Voltaire, poème sur le désastre de Lisbonne, la préface. Si jamais la question du mal physique a mérité l'attention de tous les hommes, c'est dans ces événements funestes qui nous rappellent à la contemplation de notre faible nature, comme les pestes générales qui ont enlevé le quart des hommes dans le monde connu, le tremblement de terre qui engloutit 400 000 personnes à la Chine en 1699, celui de Lima et de Colau, et en dernier lieu, celui du Portugal et du royaume de Fès. L'axiome « tout est bien » paraît un peu étrange à ceux qui sont les témoins de ces désastres. Tout est arrangé, tout est ordonné, sans doute par la Providence, mais il n'est que trop sensible que tout, depuis longtemps, n'est pas arrangé pour notre bien-être présent. Lorsque l'illustre Pope donna son essai sur l'homme et qu'il développa dans ses vers immortels les systèmes de Leibniz, de Lord Shaftesbury et de Lord Bolingbroke, une foule de théologiens de toutes les communions attaqua ce système. On se révoltait contre cet axiome nouveau que tout est bien, que l'homme jouit de la seule mesure du bonheur dont son être soit susceptible, etc. Il y a toujours un sens dans lequel on peut condamner un écrit et un sens dans lequel on peut l'approuver. Il serait bien plus raisonnable de ne faire attention qu'aux beautés utiles d'un ouvrage et de n'y point chercher un sens odieux. Mais c'est une des imperfections de notre nature d'interpréter malignement tout ce qui peut être interprété, et de vouloir décrier tout ce qui a du succès. On crut donc voir dans cette proposition « tout est bien » le renversement du fondement des idées reçues. « Si tout est bien, disait-on, il est donc faux que la nature humaine soit déchue. Si l'ordre général exige que tout soit comme il est, la nature humaine n'a donc pas été corrompue, elle n'a donc pas eu besoin de rédempteur. » Si ce monde, tel qu'il est le meilleur des mondes possibles, on ne peut donc pas espérer un avenir plus heureux. Si tous les maux dont nous sommes sensibles sont un bien général, toutes les nations policées ont donc tort de rechercher l'origine du mal physique et du mal moral. Si un homme, mangé par les bêtes féroces, fait le bien-être de ces bêtes, et contribue à l'ordre du monde, si les malheurs de tous les particuliers ne sont que la suite de cet ordre général et nécessaire, nous ne sommes donc que des roues qui servent à faire jouer la grande machine. Nous ne sommes pas plus précieux aux yeux de Dieu que les animaux qui nous dévorent. Voilà les conclusions qu'on tirait du poème de M. Pope. Et ces conclusions même augmentaient encore la célébrité et le succès de l'ouvrage. Mais on devrait l'envisager sous un autre aspect. Il fallait considérer le respect pour la divinité, la résignation qu'on doit à ses ordres suprêmes, la saine morale, la tolérance, qui sont l'âme de cet excellent écrit. C'est ce que le public a fait. Et l'ouvrage, ayant été traduit par des hommes dignes de le traduire, a triomphé d'autant plus des critiques qu'elle roulait sur des matières plus délicates. C'est le propre des censures violentes d'accréditer les opinions qu'elles attaquent. On crie contre un livre parce qu'il réussit. On lui impute des erreurs. Qu'arrive-t-il ? Les hommes, révoltés contre ses écrits, prennent pour des vérités les erreurs même que ces critiques ont cru apercevoir. La censure élève des fantômes pour les combattre, et les lecteurs indignés embrassent ces fantômes. Les critiques ont dit « Leibniz, Pope enseignent le fatalisme », et les partisans de Leibniz et de Pope ont dit « Si Leibniz et Pope enseignent le fatalisme, ils ont donc raison, et c'est à cette fatalité invincible qu'il faut croire ». Pope avait dit « tout est bien » en un sens qui était très recevable. Et ils le disent aujourd'hui en un sens qui peut être combattu. L'auteur du poème sur le désastre de Lisbonne ne combat point l'illustre Pope qu'il a toujours admiré et aimé. Il pense comme lui, sur presque tous les points. Mais, pénétré des malheurs des hommes, il s'élève contre les abus qu'on peut faire de cet ancien axiome « tout est bien ». Il adapte cette triste et plus ancienne vérité, reconnue de tous les hommes, qu'il y a du mal sur la terre. Il avoue que le mot « tout est bien », pris dans un sens absolu et sans l'espérance de l'avenir, n'est qu'une insulte aux douleurs de notre vie. Si, lorsque Lisbonne, Mequinez, Tétouan et tant d'autres villes furent englouties avec un si grand nombre de leurs habitants au mois de novembre 1755, des philosophes avaient crié aux malheureux qui échappaient à peine des ruines « Tout est bien, les héritiers des morts augmenteront leur fortune, les maçons gagneront de l'argent à rebâtir les maisons, les bêtes se nourriront des cadavres enterrés dans les ébris, et c'est l'effet nécessaire des causes nécessaires. Votre mal particulier n'est rien, vous contribuerez au bien général. » Un tel discours, certainement, eût été aussi cruel que le tremblement de terre a été funeste. Et voilà ce que dit l'auteur du poème sur le désastre de Lisbonne. Il avoue donc avec toute la terre qu'il y a du mal sur la terre ainsi que du bien. Il avoue qu'aucun philosophe n'a pu jamais expliquer l'origine du mal moral et du mal physique. Il avoue que Bayle, le plus grand dialecticien qui ait jamais écrit, n'a fait qu'apprendre à douter et qu'il se combat lui-même. Il avoue qu'il y a autant de faiblesse dans les lumières de l'homme que de misère dans sa vie. Il expose tous les systèmes en peu de mots. Il dit que la révélation seule peut dénouer ce grand nœud que tous les philosophes ont embrouillé. Il dit que l'espérance d'un développement de notre être dans un nouvel ordre des choses peut seul consoler des malheurs présents, et que la bonté de la Providence est le seul asile auquel l'homme puisse recourir dans les ténèbres de sa raison et dans les calamités de sa nature, faible et mortelle. Post-scriptum. Il est toujours malheureusement nécessaire d'avertir qu'il faut distinguer les objections que se fait un auteur de ses réponses aux objections et de ne pas apprendre ce qu'il réfute pour ce qu'il adopte.